Voilà, je suis heureux d'être là avec ma femme et mes enfants. Nous sommes donc sur Gap maintenant et c'est une nouvelle aventure qui commence depuis cet été. Donc, nous avons pris nos fonctions et on se réjouit de ce qui se passe là-bas. Des années que nous y allons régulièrement et on est témoin de ce que le feu de Dieu est à l'œuvre, la présence de Dieu, des jeunes hommes, des jeunes filles, des enfants. Chaque année sont visités, baptisés du Saint-Esprit, des conversions, des temps de gloire, des temps d'onction. Des jeunes adultes également se joignent à nous pour des camps l'été. Et c'est vrai que voilà, nous sommes honorés de voir ce qui se passe. C'est pas nous, mais c'est la présence de Dieu qui est à l'œuvre. Merci pour vos prières, votre soutien. Et je voudrais sans plus tarder partager avec vous un message dont le titre aurait pu être Des racines et du zèle. Mais je vais m'intéresser en premier, enfin voilà, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais m'intéresser uniquement à la partie concernant le zèle. Le zèle. Connaissez ce texte où les gens voient Jésus dans le temple avec un fouet qu'il a fabriqué, et les gens voient Jésus chasser les vendeurs du temple, et ils vont dire, ou ils vont se souvenir de ce texte de l'Ancien Testament, que le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Le zèle de ta maison. J'espère que vous êtes zélés ce matin. Est-ce que vous êtes zélés? Je vois pas derrière les masques vraiment l'expression des visages, mais voilà, le zèle de ta maison me dévore. Être chrétien, c'est une joie extraordinaire. La joie du Seigneur sera votre force. Et le premier verset que je voudrais lire avec vous, c'est Psaume 100, au verset 2. Il est dit ceci, le verset 1 dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Alléluia, quand tu viens à l'église le dimanche matin ou en semaine ou quand tu te lèves le matin, que tu as ton temps personnel avec le Seigneur, eh bien tu peux venir avec allégresse, avec joie dans sa présence. Le Seigneur nous amène, mes amis, sur un terrain de joie. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas une contrainte. Être chrétien, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas un poids. Nous sommes appelés à vivre une vie épanouie, une vie abondante. Jésus dira dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, qu'il est venu pour apporter la vie et la vie en... Amen. Une vie abondante. Cela ne signifie pas qu'on n'aura aucun problème, qu'on va être multimillionnaire, mais ça veut dire qu'en nous, il y a une abondance de vie, la vie de Jésus-Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et ce zèle, frères et sœurs, il est là pour impacter nos vies, premièrement dans quatre domaines, premièrement dans le service de Dieu. On peut pas dire « je suis rempli de joie, je suis rempli de foi, je suis rempli d'amour, j'ai vraiment une espérance en Jésus-Christ » et ne rien faire pour lui, ne rien vivre pour lui, ou alors ce serait passer à côté de tellement de richesses, tellement de joie, tellement de bénédictions. Est-ce que tu es actif pour ton Dieu? On l'a lu, servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Vous savez, je pense au roi David, et on va faire des parallèles avec David. Quand David est devant Goliath, il dit « Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Il y a un zèle dans le cœur de David, il aurait pu rester caché dans les coulisses, vous voyez, et laisser les choses se faire. Mais à un moment donné, ça y est, David, c'est parti. Tout ce qu'il avait cultivé comme zèle, comme foi, comme joie pour son Dieu, va se mettre en mouvement à ce moment-là. Et il va lui dire, maintenant je viens au nom de l'Éternel des armées. Notre zèle doit nous pousser au mouvement. Notre zèle doit nous pousser à l'action, sinon c'est qu'il n'y a pas vraiment de zèle. La foi nous pousse à l'action. Ça ne veut pas dire que nous allons tous faire des choses visibles, etc. Mais nous devons tous rentrer dans une vie chrétienne dynamique. Une vie qui va impacter d'autres vies. Sinon c'est la stérilité, l'apathie spirituelle. Et Dieu ne nous appelle pas à ça. Si c'est juste dans ta maison, mon frère, ma sœur, que tu aies de l'impact dans ta maison, si c'est juste auprès de tes enfants, et bien que Dieu te bénisse auprès de tes enfants, mais sois un témoin auprès de tes enfants. Et du zèle, montrons à nos enfants, montrons à notre entourage, oh combien c'est bon d'appartenir au Seigneur. Venez, voyez combien le Seigneur est bon. Amen. Amen. Le zèle pour le service, le zèle au quotidien. Et le service, vous savez, Des fois, on se trompe, on pense qu'on n'est pas capable, on pense qu'on n'est pas qualifié, qu'on n'est pas assez fort, qu'on n'est pas assez bon. Le Seigneur ne regarde pas à nos diplômes, à nos compétences, mais il regarde à notre cœur. Et ça, c'est bon. On n'a pas besoin d'être un grand érudit. Nous devons juste appartenir à Jésus et avoir un cœur qui veut le servir. Et le Seigneur nous rend capables. Au sujet de Betsaleel dans l'Ancien Testament, celui qui a participé, notamment, c'était le responsable, avec, ils étaient quelques autres, des artisans, c'était des artisans. Et Dieu dit au sujet de Betsaleel, je l'ai rendu capable. Dieu nous donne la capacité. Dieu nous donne l'habileté. Dieu nous donne la dextérité dans tel ou tel domaine. Pour faire son œuvre, c'est son œuvre. Et il nous qualifie pour faire son œuvre. Il nous qualifie pour faire son œuvre. Amen. Le deuxième point que je voudrais partager sur le zèle, mes amis, le zèle va nous pousser à nous dépasser. Le roi David, puisque j'ai dit qu'on allait parler du roi David, le roi David s'est dépassé tout au long de sa vie, tout au long de son ministère. À la fin de sa vie, David dira ceci dans 2 Samuel 22 et au verset 30. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez les lire avec moi. 2 Samuel 22, verset 30. « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ici, c'est l'exemple même de ce que on ne peut pas franchir cette muraille seul, mais il lui dit « Avec mon Dieu ». Et David pense à tous les combats qu'il a menés, à toutes les victoires qu'il a remportées. Et il dira « Avec mon Dieu ». Je franchis une muraille. Il sait qu'il a franchi des murailles. Le roi David a remporté combien de combats, de guerres. Mais il sait que ce n'était pas ses forces à lui qui l'ont fait remporter les batailles. Il sait que la puissance de Dieu était à l'œuvre à ses côtés. Et le zèle va te pousser à dépasser tes limites. Le roi David, on lui avait imposé des limites. Son papa ne l'avait même pas fait venir pour être un de ceux qui allaient pouvoir être le futur roi. Ses frères le méprisaient, on le sait, on connaît l'histoire du roi David. Ainsi, dans nos vies, il y a les limites qui nous sont propres, puis il y a celles que les gens vont poser sur nos vies. Mais celles qui comptent vraiment, c'est les limites que Dieu pose. C'est ni celles que les gens veulent poser sur nos vies, ni celles que nous croyons être les nôtres, mais c'est ce que Dieu dit de nous qui compte. Si le Seigneur veut te qualifier, si le Seigneur veut t'appeler pour tel ou tel domaine, laisse-le faire, laisse le Seigneur conduire les choses. Laisse le Seigneur conduire les choses. Et ne te laisse pas dominer par des paroles qui t'accablent, qui te limitent. Laisse Dieu déterminer qui tu seras, ce que tu feras. Laisse-le lui poser les limites, mais dépasse les tiennes. Dépasse tes petites capacités. Dis-lui, Seigneur, rends-moi capable. Seigneur, je vais m'occuper des enfants, j'aimerais que tu me rendes capable. Seigneur, qualifie-moi. Et laisse le Seigneur conduire. Le roi David n'était qu'un berger, oublié par son père, on l'a dit, mais toute sa vie, il s'est dépassé en écrivant les psaumes. Il s'est dépassé en jouant de son instrument, de la harpe, devant le roi Saül. Il y avait une partie où c'était David qui avait appris à jouer de la... Je ne sais pas si c'était vraiment de la harpe, on peut dire une guitare ou ce que vous voulez. David joue de l'instrument, écoutez-moi bien. Il y a une partie, il l'avait appris à jouer, vous êtes d'accord avec moi ? Mais est-ce que c'est les accords et les notes qui vont chasser les démons ? Non. Il y avait dans les notes de musique une portion de l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit était dans ce que faisait David. Et c'est pour ça qu'on a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. Il y avait une approbation de Dieu sur ce qu'il faisait. Et ça, c'est pour nous. Ce n'est pas juste pour qu'on dise « Ah, David, il était vraiment un super roi. » Non, ce n'est pas ça. Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que le Seigneur, il t'accompagne dans ce que tu fais ? Est-ce qu'il t'accompagne dans ce que tu es ? Est-ce qu'il t'accompagne dans ce que tu dis, dans ce que tu entreprends ? Et si tu as la faveur de Dieu sur toi, tout va bien. Tout va bien. Si le Seigneur, il est dans ce que tu fais, dans ce que tu vis, dans ce que tu es, dans ce que tu dis, dans ce que tu entreprends, alors tu es dans le bon chemin. Le danger, c'est quand on veut s'appuyer sur nos propres forces. Et quand on s'auto-persuade, ouais, je suis super fort, je suis super ceci. David, il sait, à la fin de sa vie, que le succès lui vient de l'Éternel, avec mon Dieu. Il aurait pu dire à la fin de sa vie, j'ai franchi des murailles. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit à la fin de sa vie, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il sait que cette faveur de Dieu, son succès, ne vient pas de lui. Il était une grâce de Dieu. Le succès dans le terme hébreu, c'est le même mot quand il est dit dans l'Ancien Testament au sujet de Samson, par exemple, quand il est dit « L'Esprit de l'Éternel saisit Samson ». Saisit, c'est le mot succès. Et si le succès, c'était quand le Seigneur nous saisit? Alléluia. Le succès ne se mesure pas au nombre de likes sur les réseaux sociaux. Le succès ne se mesure pas à ce que les gens voient. Il se mesure à une vie qui est conduite ou non par le Saint-Esprit. Une vie conduite ou non par le Saint-Esprit. Quand David se retrouve face à Goliath, il dépasse ses limites aussi. Ses frères, on lui dit « Non, stop, rentre à la maison, on sait ce que tu es venu faire. Tu es venu pour voir la bagarre, tu es venu pour voir ceci, cela, tu rentres. » Et lui dit « Non, je ne rentre pas à la maison. » Laissez-moi passer, vous allez voir. Il est où le Philistin? Allez, vas-y. Il dépasse ses limites. Moi, si j'avais écouté les gens, mes amis, je n'aurais rien fait de toute ma vie, tant sur le plan professionnel que spirituel. Parce que des gens veulent te mettre des limites. Il y a des gens qui ont des intentions de découragement. Ils parlent dans leur cœur. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais il y a des gens, ils ont toujours le désir de freiner, de te stopper, à dire « Ah non, toi, tu... Ah non, toi, non. » Je m'en souviens la première fois que j'étais enfant, on était à l'église, et c'est vrai qu'il y a des talents que nous n'avons pas. Il y avait un espèce de casting pour un chant, j'étais enfant. Je me suis mis à chanter comme ça, là, subitement. Et ils m'ont dit « Non, c'est bon, j'ai chanté 3 notes. » Bon, ben c'est pas grave, hein. On reconnaît les échecs aussi. Mais quand Dieu appelle, quand Dieu t'appelle, il approuve. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent même te cracher dessus s'ils veulent. Mais oh, la faveur de Dieu, mon frère, ma sœur. La faveur de Dieu, c'est tout ce dont j'ai besoin. Si j'ai la faveur de Dieu dans ma vie, gardez les millions de dollars, laissez-moi Jésus, alléluia. C'est embêtant, je ne peux pas dépasser cette ligne. Ouais. On m'a dit, surtout, tu ne dépasses pas ici. Je vous raconte une petite histoire. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé la montre, je ne sais pas, il est 11h. On a jusqu'à quelle heure? 14h30, c'est ça tu m'as dit? On a le temps. On a le temps. Les jeunes, excusez-moi, hier j'ai été super méga long. Hein, donc voilà, Joël, il m'a dit, Alain, t'as été super long. Ah. Non, c'est pas vrai. T'es gentil, Joël. Vous savez que vous avez un pasteur en or. Est-ce que vous en êtes conscient? Joël, attention, hein, que les chevilles ne gonflent pas trop, mais c'est un homme de Dieu extraordinaire. Il est rempli d'amour. Quand tu vois Joël, t'as envie d'être content, en fait. Tu le regardes, t'es content. Amen. Encouragez l'homme de Dieu. Si t'es stressé, t'es un peu tendu, tu vas voir Joël. Et avec sa tête, là, son sourire, ça dégage l'amour de Dieu. Il y a une portion de Christ en lui et ça se voit. Ça se voit. Continue, lâche pas. Hein. Et ne change pas, Joël, hein, sinon moi, je vais t'attraper par derrière parce qu'il est costaud. Mais je vous raconte une histoire toute simple des animaux. Des gens ont fait une expérience avec des animaux, des singes. On appelle ça l'histoire des singes de Maxwell, parce que c'est l'homme Maxwell, là, un écrivain américain, un pasteur, qui a écrit plein de livres sur le leadership, etc. Moi, j'appelle ça l'histoire des singes de Maxwell. Et donc, il raconte que des scientifiques ont pris, je crois, c'était 5 singes. Ils les ont mis dans une pièce où ils n'avaient pas trop de nourriture. Bon, et à un moment donné, il y avait un poteau au milieu de la pièce, un poteau comme celui qui est là. Et en haut du poteau, ils ont mis des bananes. C'était des chimpanzés. Les chimpanzés, dès qu'ils ont vu les bananes, le plus costaud de tous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Poussez-vous, j'y vais ». Il a commencé à escalader le poteau, il a grimpé, clac, 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 c'est assez rapide. Hein. Clac, 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 lorsqu'il est arrivé en haut du poteau pour atteindre les bananes, une trappe s'est ouverte et une grande quantité d'eau glacée lui est tombée dessus. Le chimpanzé est redescendu en courant. Oui, on peut descendre en courant, lol. Le chimpanzé il est redescendu avec des cris, vous voyez, c'est marrant. Un deuxième prend le relais, il dit « Mais pousse-toi, laisse-moi faire, je m'en occupe ». Il monte, pareil, il prend de l'eau glacée, clac, il redescend. Le troisième, Le quatrième, tous y passent et ils redescendent vite fait. Personne n'a touché une banane. Au bout d'un moment, il se passe un truc extraordinaire. Ils font sortir un singe de la pièce et ils en font rentrer un nouveau. Le nouveau arrive, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des singes par terre, des bananes en haut, personne ne bouge. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il dit laissez-moi passer. Et là, il se passe un truc. Les autres singes, ils se mettent, ils obstacle. Et ils lui disent non, tu passes pas. Bon, vous comprenez, c'est l'histoire. Hein. Ils l'empêchent de monter. L'expérience continue. On sort encore un des vieux singes, on en fait rentrer un nouveau. Pareil, les gens l'empêchent. Au bout d'un moment, on continue à faire sortir les vieux singes. Donc ils font sortir tous les vieux singes, ceux qui ont vécu l'expérience de l'eau glacée, ils sont plus là. Il n'y a que des nouveaux singes. Et le truc de fou, c'est qu'ils sont tous là comme ça. Et les bananes sont là-haut et personne ne monte. Ils n'osent plus monter. Ils n'osent plus monter, mais vous savez quoi ? Ils ne savent même pas pourquoi. Ils savent juste... Non, faut pas y aller. Pourquoi ? Je sais pas, on m'a dit qu'il fallait pas y aller. Et par moments, dans l'Église de Jésus-Christ, on est un peu dans cet accablement, dans cette fatalité. On n'y arrivera pas, on est trop petit, on est trop faible. Mais mes amis, lorsque nous réagissons comme ces singes-là, alors que le Seigneur nous prépare des bananes, et même si je dois prendre quelques flaques d'eau gelée, c'est pas grave, des seaux d'eau gelée, c'est pas grave. Ces bananes, elles sont pour moi, alléluia. Je vais y arriver, que tu sois d'accord ou pas. Vous savez, il y a des choses, si on écoute les autres, on ne les aura jamais, frères et sœurs. Il y a des moments, il faut juste se bouger. Il faut juste se mettre en mouvement. Il faut juste chercher Dieu. Il faut juste prier, Seigneur, montre-moi ma part d'héritage. Et vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Caleb. Il avait 85 ans. Il est allé voir Josué. Vous connaissez ce récit extraordinaire. Caleb, c'était un homme de Dieu. Il faisait partie des deux espions qui ont dit « Oui, c'est possible. Oui, on va y arriver. » Mais les autres avaient peur. Ils disaient « Ah non, comme les singes. Ah non, ils sont trop grands. Ça va être trop dur. » 40 ans après... Caleb arrive devant Josué, il n'a pas oublié Caleb, il va voir Josué et lui dit hey, « Maintenant, là, tout de suite, là, maintenant, tu vas me donner la montagne, tu vas me donner, donne-moi cette montagne que Moïse avait promis qu'il allait me donner, tu vas me donner cette montagne tout de suite, là, maintenant. » Je crois que Dieu ne se trompe pas lorsqu'il nous fait des promesses. Il y a des promesses que Dieu t'a faites, mon frère, ma sœur. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Continue à chercher Dieu, continue et vas-y, va t'en emparer. Il y a des promesses pour ta famille, Dieu t'a mis à cœur la paix de Dieu. Ce n'est pas normal, vous savez, il y a des choses, c'est juste normal que nous les ayons comme héritage. La paix de Dieu, je pense à la paix de Dieu parce que souvent, fois, je vois des familles chrétiennes où il n'y a plus la paix et on s'est habitué à ne plus avoir la paix de Dieu dans nos maisons. Et ça, ce n'est pas normal. Dans ta maison, tu peux dire, moi, Seigneur, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Ce que je suis est à toi. Seigneur, là où j'habite, c'est toi qui habites, Seigneur Jésus. Et je veux la paix. Et si la paix ne vient pas, continue. Seigneur, le lendemain, lève-toi encore et continue à prier. Lâche pas, bats-toi. Ça ne viendra peut-être pas comme ça du jour au lendemain, mais peut-être que oui. Si tu crois, tu verras. La gloire de Dieu, mon frère, ma sœur. Mais si tu crois plus, alors tu verras rien du tout. Si tu crois plus, c'est fini. Tu vas rentrer dans une vie chrétienne stérile. Là, je parle de zèle. Celui qui a du zèle, il va franchir les obstacles pour aller chercher la bénédiction. Il va aller la chercher, comme Caleb, il va aller la chercher. Caleb, ça veut dire chien. Les gens le méprisaient peut-être pour son nom. Et c'est intéressant comment Dieu a honoré Caleb. Au-delà de son nom, il y avait ce que Dieu avait dit de lui. Et le Seigneur lui avait dit, tu vas avoir cette montagne en héritage et je vais te bénir. Et le Seigneur l'a béni. Le Seigneur a honoré Caleb et on en parle encore aujourd'hui. Vous êtes toujours là ? Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, donc je ne peux pas te dire à quelle heure je vais finir, Joël. Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça, Joël. Hein. Lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, que je me suis fait baptiser, à l'âge de 17 ans, j'avais un ami qui m'a invité dans sa maison en Haute-Savoie. Et quand je suis arrivé chez lui, j'étais surpris parce qu'il avait le même âge que moi. Donc il avait 17 ans. Et on était donc dans la montagne, on devait sortir dans les petits villages alentours, faire du sport, etc. Et puis le matin, lorsque nous nous étions levés, il y a un moment, ça m'a interpellé. Je lui ai dit, Michael, viens, on y va, on sort. Et il me dit, non, Alain, moi, j'y vais pas. Et pas encore. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu... Viens, on sort, il fait beau et tout. Il me dit, non. J'ai promis à Dieu que tous les jours, je lirai un chapitre de la Bible. Du haut de ses 17 ans, ce jeune homme, il s'était engagé tous les jours à lire, à chercher Dieu. Et quand j'ai vu ça, ça m'a donné une grande leçon. J'ai compris, Alain, tu veux être chrétien. Il va falloir que ce zèle se transforme en action et en recherche concrète de Dieu. Et frères et sœurs, si vous voulez plaire à Dieu, vous devez le chercher. Ce n'est pas juste le dimanche matin qu'on cherche Dieu. Le dimanche matin, c'est la cerise sur le gâteau de la semaine où on a une vie consacrée. On veut lui plaire. On veut le rechercher, on prie, Seigneur, viens, sers-toi de moi. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, ce que je dois vivre, ce que je dois dire. Seigneur, prends soin de moi, s'il te plaît, Seigneur. Et Dieu t'éclairera, Dieu t'aidera. J'ai compris que la vie chrétienne, c'était une vie quotidienne. Et le zèle dont je parle ce matin doit se manifester au quotidien. Nous ne sommes pas des chrétiens d'un jour ou du dimanche, mais nous sommes appelés à être des disciples de Christ tous les jours. Alors ça ne veut pas dire tu feras des exploits tous les jours, mon frère, ma sœur, mais la fidélité, ça ne se négocie pas avec le Seigneur. La fidélité, c'est une condition sine qua non d'une vraie vie de chrétien épanoui. Souvent, on rencontre des gens, vous savez, ce qui fait mal au cœur, personnellement, c'est quand les gens, en tant que pasteur, viennent te voir et t'expliquent leur vie. Et à un moment donné, souvent, les gens, quand ils viennent nous voir, c'est pour partager un fardeau. Et avec amour, on fait tout ce qu'on peut, on est là dans l'écoute, et le Seigneur est là, il nous aide, et je crois que Dieu est celui qui répare. Mais mes frères, j'ai noté ceci de commun à beaucoup de situations. Mes frères et sœurs, c'est qu'à un moment donné, souvent, il y a un temps où la personne, il y a eu un temps de relâchement. Pas toujours, mais ça arrive. Et ça arrive trop souvent pour qu'on fasse comme si ça n'existait pas. Tu baisses la garde pendant une journée. Il suffit que tu baisses la garde pendant une journée. Et tu peux te retrouver, excusez-moi l'expression, dans les choux. Il suffit d'une journée, il suffit d'une minute. Le péché, ça fait des dégâts. Et ça fait des dégâts vite, vite. Le zèle doit nous permettre de rester éveillés. Veillez et priez, dira le Christ aux disciples endormis à Gethsémané. Veillez. Il y a une dimension du feu qui reste allumé, vous voyez. Tu veilles, il y a toujours, la lampe n'est pas éteinte. Dans ton cœur, la lampe n'est pas éteinte. Je te promets, Joël, je continue. Le service actif, le dépassement, le changement dans la vie quotidienne. Quatrième point, le combat contre le péché. Je reprends l'image que j'ai évoquée tout à l'heure, Jésus dans le temple. Et souvent, on imagine Jésus dans le temple et on se dit, waouh, c'était super, et toi et moi. Il faut qu'on soit radicaux contre le péché. Radicaux contre le péché. Je me souviens des jeunes hommes, des jeunes filles. Un gars, un jour, on était en camp et il vient à la fin du camp et il avait éclaté son téléphone portable parce qu'il était captif, en fait, de la pornographie, de toutes ces choses-là. Et son pasteur vient me voir et me dit, Alain, le jeune, il est rentré dans le dortoir de suite après la réunion, il a pris son iPhone et il a explosé au sol. Et ce jeune homme de témoigner, de dire, mais moi, j'ai perdu un iPhone aujourd'hui, mais je suis libre, alléluia. C'est bon, ça. Le zèle te pousse à être radical contre le péché. Le zèle ne te poussera pas à faire des compromis. Vous savez, il y a deux personnages. On a évoqué le roi David et je veux y revenir. David et Saül ont eu des réactions diamétralement opposées face au péché. Écoutez-moi bien. Le roi David a composé le psaume 51 suite à son péché. Grave, très grave. Le roi David a failli tout perdre et il a eu des conséquences à son péché. Mais suite à son péché, il s'est repenti. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Le roi David a composé le psaume 51 et le psaume 32, notamment, qui parlent du pardon. Et je voudrais juste lire un verset dans le psaume 51, au verset 3. il est dit ceci. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité. » On imagine un David brisé. « Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. » Je reconnais. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Et voilà ce qu'il dit David. Passons maintenant chez Saül. Saül pêche. Il désobéit à Dieu. 1 Samuel 15, verset 30, nous dit ceci, c'est un verset terrible, écoutez bien. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Et il lui dit, ton Dieu, honore-moi. Saül demande à Samuel de l'élever alors qu'il aurait dû s'abaisser, alors qu'il aurait dû se prosterner devant Dieu, alors qu'il aurait dû déchirer ses vêtements, alors qu'il aurait dû pleurer sur son péché. La Bible nous dit, il va voir le prophète et il lui dit, élève-moi devant le peuple, je ne veux pas perdre la figure. Si mon frère, ma sœur, quand on pêche, on doit être prêt à perdre la face s'il le faut, mais à sauver notre âme. Je me souviens de ce témoignage d'un homme de Dieu, un homme de Dieu extraordinaire. Il raconte dans sa biographie, il dit à un moment donné, j'ai perdu la faveur de Dieu, je sentais que dans ma vie il y avait des compromis. C'était un frère des gens du voyage et il dira ceci, il était dans sa caravane avec sa femme et il lui dit, sa femme il l'appelait Mémé, c'est un beau surnom pour votre épouse messieurs, et il dit Mémé, je sens que j'ai perdu la faveur de Dieu. Et il est là dans sa caravane, il est triste, il pleut, il tombe des cordes. Et il sort, il dit « Maintenant je m'en vais prier ». Il sort de la caravane, il court dans la forêt, il tombe des cordes, il jette son visage dans la boue, il crie à Dieu, il demande pardon, il s'humilie. Et au bout de quelques temps, peut-être une heure, deux heures, que sais-je, il rentre dans sa caravane, son visage plein de boue. Et il dit « Ça y est mémé, j'ai retrouvé la faveur de Dieu, alléluia ». Frères et sœurs, le pardon libère, le pardon nous permet d'avoir un zèle, oui, saint pour notre Dieu. Et dès qu'on tombe, dès que nous avons une mauvaise pensée qui vient, Seigneur, pardonne-moi, libère-moi de ces mauvaises pensées, détache-moi de ces choses, Seigneur Jésus. Le zèle de ta maison me dévore, alléluia, et il dévore ce qui est impur en moi, alléluia. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché, amen, amen. Juste une parenthèse maintenant, avant de basculer sur mes deux derniers points et mes six autres points, non, c'est pas vrai. Un jour, nous étions avec mon épouse dans une convention évangélique pentecôtiste, un moment super avec des milliers de personnes. Et là, on s'avance pour qu'on prie pour nous. On était jeunes, on voulait servir Dieu. Et le frère qui est là, un temps d'appel, on est des centaines. Moi, je m'approche avec mon épouse, on est là. Et on dit, voilà frère, priez pour nous, on veut servir le Seigneur. Et on pleure parce que c'était un moment difficile, on avait de l'opposition. C'était des moments de combat, on n'était pas encore au début. Début qu'on avait déjà pris plein de coups. Mais ça, faut quand tu veux servir Dieu, il y a de l'opposition. J'ai commencé à prendre des coups de tous les côtés. Bim, bam, boum, bam, boum. Bref, je me retrouve face à cette personne. Je dis, prie pour moi, mon frère. Et il a vu notre cœur, il a vu qu'on pleurait devant Dieu. Et il est allé faire un truc un peu rigolo. Vous voyez, il est parti dans le coin de la pièce prendre un chiffon. Et il est venu, il nous a essuyé les pieds comme ça. Et il m'a dit, quel zèle pour le Seigneur. Et il m'a dit ceci que je n'ai jamais oublié. Que votre zèle ne devienne pas amer. Cette parole était prophétique pour moi parce que oui, l'amertume commençait à germer. Et tous les problèmes qu'on me faisait, je voulais moi répondre aux problèmes avec une méthode charnelle. Je voulais régler les problèmes moi-même. Mais j'ai dit, Seigneur, j'accepte l'opposition, j'accepte des gens méchants, mais règle mes affaires, Seigneur Jésus. Et le Seigneur, il a réglé les affaires. Laissons le Seigneur régler les affaires. Mais que notre zèle ne devienne pas amer. L'amertume, elle nous ronge. L'amertume, elle nous fait du mal. C'est un poison. C'est un poison. Et en tant que chrétien, nous n'avons pas le droit de cultiver l'amertume. Aimez-vous les uns les autres. Des fois, on dirait que ce verset n'existe plus dans la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Et si ton frère, si tu as quelque chose contre ton frère, avant de prendre le repas, tu vas et tu règles l'histoire maintenant. Si ton frère est à péché, tu vas entre lui et toi et tu règles le problème. Voilà le Seigneur qui nous donne le protocole pour régler les problèmes. Pour pas qu'il y ait d'amertume, il nous explique comment il faut faire. Le zèle doit être entretenu. Le zèle, c'est un feu. Le feu, si tu ne l'entretiens pas, il s'éteint. Moi, je crois que Dieu, dans nos vies, prévoit des moments de feu. Des moments où le feu s'allume. Et ce feu, waouh, je dois après l'entretenir. Alors, ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Il y a 20 ans, quel âge j'ai, moi ? Non, même plus que 20 ans. Plus de 20 ans, on est dans un camp de jeunes. Avec des copains, des jeunes, vous voyez. Le Saint-Esprit est là. C'est rempli de joie. La puissance de Dieu est à l'œuvre. C'était à Gap, d'ailleurs. Dans les années Twist, vous voyez. Et on est là, le zèle est au maximum. Encore plus, et on s'envole directement dans un char de feu, vous voyez. Dans la gloire. On rentre dans notre église locale, on est bouillant. On a 20 ans. Le dimanche matin, le culte, on est à fond. On loue Dieu. C'est magnifique. Magnifique. Ouah, on a envie de monter sur les chaises, de crier gloire à Dieu. Seigneur, tu es bon. Tu es puissant. Alléluia. Ouais. J'ai des jeunes comme ça. On est content de voir des jeunes en feu pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, il y a un gars qui vient. C'était un jeune vieux. Je ne sais pas si vous connaissez. Le jeune, il avait déjà 67 ans, mais il n'avait que 20 ans, le pauvre. Il arrive pour me voir comme ça à la fin du culte. Et il me dit, eh, dis donc là, on n'aime pas les feux de paille ici, ok? Là, dans ma tête, je me voyais en train de régler le problème à ma manière, vous voyez? Mais j'ai fait, Et vous savez, je vais avoir 40 ans bientôt. Je vais avoir 40 ans bientôt. Mes amis, ce feu, ce n'était pas un feu de paille. Et vous savez quoi? Il est toujours là. Il brûle, il brûle, il brûle, il brûle, il brûle encore, il brûle encore. Je l'entretiens, il brûle encore. La puissance de Dieu est encore en moi. Le zèle de la maison de Dieu me dévore encore. Je suis encore plus embrasé qu'à l'époque, qu'il y a 20 ans. Et j'espère que dans 20 ans, par la grâce de Dieu, pas par mes propres forces, j'espère que dans 20 ans, je serai encore là, en feu, que le Seigneur ne va pas nous éteindre. Il ne veut pas ça, le Seigneur. Le Seigneur, il nous pourvoit une portion. La manne, c'était tous les jours. Le Saint-Esprit, c'est pour tous les jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Seigneur ne veut pas qu'on s'éteigne. J'aime voir les cheveux blancs dans nos églises, de voir des gens âgés, de voir des gens qui ont encaissé les coups de la vie et qui sont toujours là. Ils disaient, alors, qu'est-ce qu'il y a? On est toujours là. Un problème. Et alors, quoi? On est là. On est des anciens et on a tenu bon. On est là. On a 70 ans, 80 ans, 90 ans et le Maître a été fidèle et jusqu'à aujourd'hui, il est là. Amen. Il vit en nous, quel que soit notre âge. Il est fidèle. Le feu de Dieu, la joie du Seigneur est notre force. Le zèle de ta maison me dévore. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui est vivant, qui vit en nous, qui nous remplit de force, de joie, de puissance. Alléluia. La puissance de Dieu. Vous savez, le prophète Samuel a déversé l'huile d'onction sur le roi David pour l'introniser roi. Et il est dit ceci dans la Bible, 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. Waouh! Il le oint d'huile au milieu de ses frères. Vous comprenez ce que ça veut dire, la scène. Imaginez la scène. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et ça c'est énorme, et dans la suite. Samuel se leva, Samuel s'en va, mais l'Esprit de Dieu reste sur David. Et David a eu une vie extraordinaire. David a continué à se battre, il a continué à être un guerrier dans le monde spirituel. Il a continué à remporter de grandes victoires, non seulement militaires, mais spirituelles. Les cantiques de David, les psaumes, ont servi à l'établissement de l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Les psaumes sont lus de partout. Tout ça, c'est parti d'un jeune homme qui était un berger, oublié de tout le monde, et qui est arrivé sur le devant de la scène, on aurait dit par accident. Il ne reste plus aucun de tes fils ici, il reste un, il est berger, il est avec les moutons. Et le Seigneur est allé le chercher, il l'a mis devant. Et il a dit, voilà, c'est lui. Il a pris sa guitare, il a pris ses armes, et il a été un soldat puissant entre les mains de Dieu. Waouh, c'est beau. Et ce qui est beau, c'est que cet homme-là, on l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que le secret de David n'était pas dans sa force, n'était pas dans son talent de guitariste, mais le secret de David, il était dans son cœur. Énorme. Et le Saint-Esprit, il remplissait le cœur de David. Je bénis Dieu pour le ministère du Saint-Esprit dans l'église de Pentecôte. Aujourd'hui encore, en 2021, nous sommes au bénéfice de l'action du Saint-Esprit et des convictions de péché, des baptêmes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend, la puissance de Dieu descend. Des hommes, des femmes sont libérés des puissances des ténèbres. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Le feu de Dieu agit. Alléluia. Amen. 5 minutes, Joël, c'est bon ? C'est vrai ? Allez, ça va, vous êtes toujours là ? Ouais. Si vous avez prévu un poulet à midi, bon, ben voilà. Tant pis pour lui. Une des réalités dans la vie chrétienne, c'est que le zèle, il doit être entretenu, je l'ai dit. Quand tout va bien, c'est facile à entretenir le zèle. Quand tu as une église où tu as des frères, des sœurs qui t'encouragent, quand tu as un pasteur qui est là et qui peut s'occuper des âmes et il t'encourage aussi et tu es super épanoui spirituellement, tout va bien. Mais quand c'est des moments de creuser, quand tu passes par des moments lourds, personnel, professionnel, c'est dans ces moments de tempête que c'est le plus dur, que dans ces moments de brisement. Vous savez, David a vécu le brisement. David a perdu un enfant. Je l'ai dit tout à l'heure, le péché de David a eu des conséquences. Malheureusement, il a perdu un bébé. Il a connu la trahison au sein de sa famille. Et c'est dans ces moments difficiles, dans ces moments terribles où les mots humains n'ont aucune importance. Quand on est face à quelqu'un qui a perdu un enfant, on peut dire, quel poids auront nos mots, si ce n'est des mots inspirés par le Seigneur lui-même, mais quelle faiblesse que sont nos paroles à ces moments-là, frères et sœurs. Et malgré ça, le roi, on aurait pu dire que c'était la fin du ministère de David. Ça aurait pu être la fin du ministère de David, ce moment-là. Mais non, le Seigneur lui a permis de garder son cœur, de se repentir, de se relever. Et la problématique, c'est comment est-ce que nous réagissons, nous, quand on passe par l'épreuve ? Est-ce que nous gardons nos cœurs au travers de l'épreuve ? Est-ce que le zèle... Jésus nous a prévenus, frères et sœurs. Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, prenez courage. J'aime cette parole de Jésus. Tu vas souffrir, c'est vrai, parce que c'est la vie. C'est compliqué. Tu auras des tribulations, mais moi je te dis que je serai avec toi. Alléluia. Et quand le Seigneur il nous dit qu'il est avec nous, ce n'est pas pour nous faire perdre. Là, normalement, vous auriez dû vous lever sur les chaises et dire « Amen ». Quand le Seigneur il dit qu'il est avec nous, ce n'est pas ni pour nous faire perdre, ni pour nous regarder perdre. Merci. Je serai avec vous tous les jours, alléluia, jusqu'à la fin du monde, tous les jours, tous les jours. Mes amis, quand je parle d'épreuve, quand je parle de souffrance, je pense souvent, et un livre qui m'a bouleversé, je vous encourage, si vous avez internet, un ordinateur à la maison, téléchargez-le, et vous le trouverez gratuitement vous tapez sur le Google, Mes prisons avec Dieu. Un livre qui a été écrit dans les années 60 par un pasteur roumain qui s'appelait Richard Wurmbrand, qui est décédé au début des années 90. Cet homme a été emprisonné pendant 14 ans dans les prisons soviétiques, 14 années, dont 3 ans à peu près dans des prisons sans fenêtres. Torturé. Quand il est sorti de prison, au bout de 14 ans, il a fait deux incarcérations, une de peut-être 8 et 6, quelque chose comme ça, quand il est sorti de prison. Il est parti aux États-Unis, il s'est mis torse nu devant la caméra et il a dit, voilà ce qui se passe dans l'église du silence, torturé pour le Christ. Voilà ce qui se passe derrière le rideau de fer, voilà ce qui se passe chez les communistes maintenant. Vous, les Occidentaux, qu'est-ce que vous faites? Il a enlevé sa chemise, il a montré toutes les blessures, les électrocutions. Il a montré les cicatrices, on les mettait dans des congélateurs où il faisait moins 30, moins 40 degrés, puis on les mettait dans des pièces où il faisait 60 degrés. Et c'était des moments comme ça, toute la journée, communisme is good, communisme is good, communisme is good, communisme. Et je le dis en anglais parce que dans la vidéo, il le dit en anglais. Ce frère-là a enduré des choses terribles. Et à un moment donné, il raconte une histoire, et c'est cette histoire que je veux vous raconter maintenant. Et il dit... je vais vous raconter le plus beau moment de toute ma vie. Ça vous intéresse ? Moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de le lire. Il raconte ce qui se passe dans la prison, dans les prisons soviétiques en Roumanie, dans les années 70, peut-être, quelque chose comme ça. Et moi, quand je lis ça, je me dis, mais Seigneur, tu es avec nous, même dans les pires des situations. Et des moments donnés où ce frère, il disait, je suis en train de devenir fou. Il entendait des voix, il entendait le diable qui venait se moquer, il entendait ricaner des démons dans sa cellule sans fenêtre. Et il raconte, il dit, à ce moment-là, la présence de Dieu est descendue dans ma cellule. La lumière de Christ est venue dans ma cellule. Les ténèbres sont parties. Et il a tenu le coup. Et quand il est sorti de prison, il a créé une association, une œuvre missionnaire, comme l'AEP pour les églises persécutées. Ça s'appelle Voice of Martyrs. Ils ont aidé des millions de chrétiens persécutés. Et c'est parti d'un homme qui était enterré sous le Parlement à Bucarest, qui est resté ferme, qui a gardé son cœur. Il s'est battu, il a tenu bon. Et regardez l'histoire qu'il nous laisse. Permettez-moi de vous interrompre pour vous parler d'un autre chrétien. Il n'était pas prêtre, mais simple paysan. Dans notre pays, les agriculteurs sont presque toujours analphabètes, ou presque. Il avait bien lu sa Bible, mais à part cela, il n'avait jamais lu un livre. Maintenant, il était dans la même cellule avec des professeurs, des universitaires et d'autres hommes de haute culture. Vous savez que les communistes, à l'époque, enfermaient beaucoup de monde, des politiques, des intellectuels, des religieux. Il était avec des hommes de culture qui avaient été mis en prison par les communistes. Et ce pauvre fermier tentait d'amener au Christ un membre de l'Académie des sciences. Mais en retour, il ne reçut que moquerie. « Monsieur, je ne peux pas vous expliquer beaucoup de choses, mais je marche avec Jésus. Je parle avec lui. Je le vois, lui dit le paysan. Allons, ne me raconte pas ces contes de fées selon lesquels tu vois Jésus. Comment vois-tu Jésus ?» Eh bien, je ne peux pas vous dire comment je le vois. Je le vois seulement. Il existe plusieurs façons de voir. Dans les rêves, par exemple, vous voyez beaucoup de choses. Il me suffit de fermer les yeux. Maintenant, je vois mon fils devant moi. Maintenant, je vois ma belle-mère. Maintenant, je vois ma petite fille. Tout le monde peut voir. Il y a une autre vue. Moi, je vois Jésus. Tu vois Jésus? Oui, je vois Jésus. De quoi a-t-il l'air? Comment est-il pour toi? Est-ce qu'il a l'air calme, en colère, ennuyé, agacé? Est-ce qu'il est heureux de te voir? Est-ce que parfois il sourit? Le paysan de lui répondre, vous l'avez deviné, il me sourit. Messieurs, vous venez d'entendre ce que cet homme nous dit, il se moque de nous, il dit que Jésus lui sourit. Montre-moi comment il sourit. Ce fut un des plus grands moments de ma vie, dit Richard von Brandt. L'agriculteur est devenu très, très sérieux. Son visage s'est mis à briller. Dans l'église aujourd'hui, il y a des pasteurs et des théologiens qui ne peuvent croire à la Bible entière. Ils n'en croient que la moitié ou un quart de celle-ci. D'une certaine manière, ils ne peuvent pas croire aux miracles. Je peux croire à l'ensemble de la Bible parce que j'ai vu des miracles, j'ai vu des transfigurations, pas comme celle de Jésus, mais quelque chose... À part de celle-ci, j'ai vu des visages qui rayonnaient. Un sourire apparut sur le visage de l'agriculteur, et je voudrais être un peintre pour être capable de peindre ce sourire. Il y avait un soupçon de tristesse à cause de l'âme perdue du savant, mais il y avait tellement d'espoir dans ce sourire, et il y avait tant d'amour et tant de compassion, et un désir que cette âme sois sauvé. Toute la beauté du ciel était dans ce sourire, sur ce visage. Le visage était sale et n'avait pas été lavé, mais il resplendissait d'un beau sourire du ciel. Le professeur baissa la tête et il dit, « Monsieur, vous avez raison, vous avez vu Jésus et il vous a souri. » Mes amis, quel que soit le niveau de souffrance, le Seigneur a prévu, il l'a dit, il nous a prévenu, il nous a dit, vous ne serez pas éprouvés au-delà de vos forces. Quel que soit le niveau de souffrance, de larmes, il est avec nous. Et c'est le message, c'est le parfum qui remonte de toutes ces années de souffrance chez ces hommes-là extraordinaires, chez ces héros de la foi. Richard von Brandt disait, quand on écrase une fleur, la seule réaction qu'elle a, c'est de vous donner son parfum. Frères et sœurs, certains peut-être ici aujourd'hui sont dans des souffrances, sont dans des moments compliqués. Mon frère, ma sœur, laisse le Christ prendre soin de toi. Laisse-le te remplir de sa paix et que son sourire, alléluia, soit sur ta vie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et on finit par la prière si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, merci pour le zèle de ta maison, Seigneur. Merci pour le zèle de ta maison. Je prie, si quelqu'un est dans des moments compliqués aujourd'hui, je prie que tu apaises peut-être les craintes, je prie que tu apaises peut-être les angoisses, Seigneur, et que tu redonnes la paix. Seigneur, la paix de Dieu qui vient amorcer le zèle. Fais du bien à ton peuple. Seigneur, fortifie ton peuple. Ta parole nous dit que quand nous nous rassemblons, Seigneur, c'est pour devenir meilleur. Alors, Seigneur, fais germer plus de zèle, plus de foi, plus de force, de courage. Que ton onction nous anime comme elle a animé Samson. Que ton esprit nous saisisse comme il a saisi Caleb, Seigneur Jésus, pour aller saisir la promesse. Seigneur, je prie maintenant pour l'église de Istres. Je prie que tu viennes te saisir de chacun de ses membres. Seigneur, prends soin de cette église. Mets encore plus de feu, plus d'amour, plus d'onction. Seigneur, bénis ton serviteur, bénis sa famille. Seigneur, bénis chaque membre ici, peut-être qui est en train de te servir, qu'il te serve encore plus. Avec plus d'efficacité, Seigneur, que le zèle soit abondant ici. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà donné dans le passé à cette Église. Et nous voulons croire que tu n'en as pas fini et que le meilleur reste à venir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Prends soin de ton peuple. Oui, tu es le bon berger. Tu prends soin de tes brebis. Et Seigneur, s'il y a des loups qui rôdent, qu'il soit dégagé maintenant au nom de Jésus. Des gens qui parlent mal, nous détruisons leurs paroles au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons des paroles de vie sur l'Église, des paroles de bénédiction, des paroles de paix. Seigneur, merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut donner une main d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.